On dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons avec En Dialogue sur les ondes de Radio VM. Je m'entretiens aujourd'hui, comme la semaine dernière, avec Marc Chevrier, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, par ailleurs membre du CA de la Société des Amis de l'Encyclopédie de l'Agora. Comme la semaine dernière, il s'interroge sur le subjectivisme radical qui caractérise de plus en plus nos sociétés modernes. Ainsi, l'individu se met à la mesure de toute chose, au mépris souvent du sens commun, de la vérité, de la décence ordinaire et de la médiation des institutions. Dans un repli du moi qualifié de narcissique, cet individu en vient graduellement à ne plus se définir que par ses griefs et son ressenti, car sa vie est de plus en plus vécue sur le mode de la vulnérabilité. Un auteur, notamment, guide mon invité dans sa réflexion, l'historien et sociologue états-unien Christopher Lash, décédé en 1994. Volet 2, je le rappelle, d'une entrevue amorcée la semaine dernière. Marc Chevrier, remercie pour de revenir à la radio pour parler encore une fois de subjectivisme radical.
Bonjour.
Alors écoutez, la semaine dernière, on a fait une assez longue présentation de qui vous êtes. Je vais juste rappeler que vous avez une maîtrise en droit à l'Université de Cambridge, un doctorat en sciences politiques à Sciences Po à Paris, donc l'Institut d'études politiques de Paris, qui vous a valu un poste donc au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. 3 essais à votre actif ainsi que des ouvrages collectifs. Les 3 essais, dont 2 vous ont valu le prix Richard Arès de l'Action nationale, Le temps de l'homme fini au Boréal en 2005, pas de prix cette fois-ci, prix Richard Arès qui est remis à la République québécoise, hommage à une idée suspecte au Boréal 2012, et un autre prix Richard Arès, L'Empire en marche, des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa, coédition Presse de l'Université Laval et Herman, sorti en 2019. Vos expertises, vos intérêts sont très vastes, ça va de la politique au Québec à l'Europe occidentale, à la littérature, au gouvernement représentatif, aux droits et philosophies politiques, et j'en passe, le temps nous manque. On avait parlé de certaines manifestations du subjectivisme radical la semaine dernière. Vous avez évoqué un ouvrage non traduit en français, mais de 2 professeurs états-uniens, Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, The Coddling of the American Mind, le maternage de l'esprit américain. On va aujourd'hui parler d'un très grand auteur que vous et bien d'autres citez, Christopher Lash, et ensuite on va aborder la question de certaines manifestations politiques, philosophiques, psychologiques de ce narcissisme rampant dans nos opinions publiques occidentales et chez l'individu qui se voit vraiment comme ultra vulnérable et ultra protégeable, si j'ose dire. Quelques mots sur Christopher Lash, Marc Chevrier.
C'est un sociologue américain qui a une œuvre très abondante et qui aussi se distingue par une écriture très riche, une vaste culture, puisque c'est un sociologue qui s'intéresse à la philosophie, à la psychologie, notamment la psychanalyse, à la littérature, aux arts, même les arts plastiques. Et puis, il a un de ses ouvrages les plus marquants, qu'il a fait beaucoup connaître, et qui est d'ailleurs à l'origine de l'autre ouvrage dont nous allons parler, s'appelait en anglais « The Cult of Narcissism », le culte du narcissisme, qui a été publié, je pense, dans les années 80. Et c'est un ouvrage qui a connu une très grande fortune, où là, déjà, il constatait que le narcissisme était devenu non pas une simple réalité clinique observable par quelques psychologues, mais quelque chose de généralisé dans la société, la culture américaine, et qui s'était progressivement affirmé au cours du 20e siècle. Et par ailleurs, il y a un autre ouvrage très marquant, La révolte des élites, qui l'a fait connaître. Donc, Christopher Lash est quelqu'un d'ici l'a classé. Certains vont le classer parmi des espèces de conservateurs, ronchonneurs, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il est critique des dérives de la modernité, mais il renonce pas du tout au projet de la modernité. Et puis, il s'intéresse aussi, c'est très assez unique chez lui, il s'intéresse beaucoup aussi à la pensée théologique et comment elle a façonné l'histoire américaine. C'est une chose qu'on voit peu parmi les sociologues, et il s'est beaucoup intéressé c'est justement la théologie de tous les mouvements protestants aux États-Unis dans un autre de ses ouvrages et comment justement ces théologiens protestants ont eux-mêmes contribué à propager finalement un certain mythe du progrès à la base du libéralisme américain. Bref,
pardonnez-moi, mais Christopher Lash est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup au lien entre culture d'élite et culture populaire. Non, c'est un peu le, si j'ose dire, pardonnez-moi, mais le Fernand Dumont des États-Unis, non? Ou peut-être que Dumont serait le Christopher Lash du Québec.
Il est l'un des premiers à avoir constaté et même critiqué le décrochage entre les élites et le peuple, si vague soient ces deux catégories, et thème que d'autres auteurs vont par la suite vont récupérer, approfondir, mais il est l'un des premiers à avoir vu cette espèce de sécession même entre les élites des nations et leur propre peuple. Et il s'en attristait et mais ce genre de thème apparaît dans plusieurs de ses livres, en effet.
Il y en a deux, je crois que vous avez cité, Marc Chevrier, deux titres, Le culte du narcissisme. Pas mal de ses ouvrages sont traduits en français du reste. Donc, Le culte du narcissisme et l'autre, c'est Le moi assiégé. Et on est encore une fois dans la même idée, non, que je suis vulnérable, je dois me protéger, je dois devenir une forteresse parce que le monde extérieur est froid, hostile, méchant, il veut ma perte.
Oui, mais en fait, avant de dire cela, il faut comprendre pourquoi Christopher Lash a écrit Le moi assiégé. Oui. Ce n'est pas la répétition de son premier essai sur le culte du narcissisme. En fait, on sent qu'il a écrit cet ouvrage-là peut-être pour faire des précisions et raffiner considérablement sa pensée. Lorsqu'on pense au moi narcissique, on pense tout de suite à l'individu. Alors, on se dit, bon, voilà, Christopher Lash est un critique de l'individualisme. Mm-hmm. Et c'est un grand thème qui a été, par exemple, analysé chez Tocqueville, qui justement a vu à l'œuvre, lorsqu'il a voyagé aux États-Unis dans les années 1830, l'a vu à l'œuvre dans la démocratie américaine, le nouvel individu démocratique qui était pour lui une nouveauté par rapport à l'individualité aristocratique à laquelle il était habitué en France. Il était du même issu.
Donc Christopher Lash, lui, se situe après la Seconde Guerre mondiale.
Oui,
le
tout
portrait aux États-Unis a changé.
Et Lash le dit d'ailleurs dans son livre, Le moi assiégé, le moi narcissique n'a rien à voir avec l'égoïsme. Mm-hmm. Et malgré le fait qu'il ait quand même tenté de bien définir les concepts, il s'est aperçu qu'on ne comprenait toujours pas son concept de narcissisme, parce que souvent les gens l'associaient tout simplement à l'égoïsme. Et en fait, tout son livre nous montre que le moi assiégé, ce qu'il appelle le moi assiégé, n'a rien à voir en fait avec l'égoïsme, qui est quelque chose d'assez naturel, qui existe à peu près dans toutes les époques. Se vouer à la défense de ses propres intérêts contre vents et marées, c'est bon. En fait, c'est pas nécessairement la bonne façon de définir le narcissisme. On peut définir l'égoïsme ainsi, mais pas nécessairement le narcissisme.
Alors, Christopher Lash déploie sa pensée dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, marqué par l'avènement d'une classe moyenne, un matérialisme galopant, un discours des droits qui lui aussi va gonfler. Je veux dire, tout cela va finalement faire un bouillon assez riche, si j'ose dire, non?
Oui, mais justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que fait Lash, c'est qu'il fait des allers-retours constants entre une définition ou une compréhension de ce qu'est la personnalité humaine, comment la personnalité humaine se développe normalement, et ensuite les conditions sociales autour qui vont tantôt favoriser le développement de la personnalité, tantôt le miner. Voilà. Et alors, pourquoi partir du narcissisme? En fait, pour résumer sa pensée, il nous renvoie finalement à la construction de la personnalité chez l'être humain. Et le fait fondamental, il est très influencé par la psychologie, notamment la psychanalyse, c'est le fait fondamental de la séparation avec la mère. Et mais cette séparation avec la mère n'est pas quelque chose qui se fait facilement, elle ne se fait pas chez tout le monde, et bien sûr, elle ne se fait pas de la même manière. Et chez certaines personnes, cette séparation ne se fait pas ou se fait mal. Et l'enfant qui n'arrive pas à se séparer de la mère va cultiver souvent le mythe ou la volonté de la toute-puissance qu'il trouve dans la sécurité maternelle.
Est-ce qu'on peut parler, si vous voulez, Marc-Chevry, de moi impérial? Le moi symbiotique. Christopher Lash emploie les deux expressions moi symbiotique et moi impérial.
Justement, mais Christopher Lash nous fait comprendre que, au fond, qu'est-ce qu'un narcissique? C'est quelqu'un qui finalement n'a pas accepté ou intériorisé cette séparation avec la mère. Et ensuite, bon, toutes sortes de raisons, à la fois familiales et sociales, il peut se construire une vie où finalement cette séparation ne sera jamais totalement consommée. Et cette séparation non consommée, elle peut se vivre chez l'âge de deux façons. La première, c'est ce que vous avez évoqué, c'est ce qu'il appelle le moi impérial, c'est-à-dire c'est finalement le moi qui voudrait que le monde gravite autour de lui.
D'accord.
Et qui veut le faire à sa façon. Et qui donc nie la réalité du monde extérieur ou des autres pour en faire plutôt le prolongement de son propre moi. Ça, c'est ce qu'il appellerait le moi impérial. L'autre possibilité narcissique, et qu'il constate socialement, c'est ce qu'il appelle le moi symbiotique ou la régression symbiotique. C'est-à-dire, au fond, c'est un moi, mais pour lequel il n'y a pas vraiment de séparation entre lui et le monde, parce qu'il voit son habitation du monde comme une espèce d'union fusionnelle avec le monde, la société, l'environnement, la nature, etc.
Donc, d'une part, dans un cas comme dans l'autre, le moi impérial, le moi symbiotique évoqué par Christopher Lash, dont on parle aujourd'hui, Marc Chevrier, Christopher Lash, sociologue et historien états-unien décédé en 1994, moi impérial symbiotique, le moi impérial, si vous voulez, est le seul au monde, le moi symbiotique disparaît dans une communion, mais une fusion avec le monde, de part et d'autre, il n'y a pas de relation.
Des relations, mais ce sont des relations qui deviennent, comment dire, mal engagées qui sont à la fois insatisfaisantes pour ces personnes qui sont prisonniers de leur moi narcissique et insatisfaisantes pour les autres qui sont engagés dans ces relations. Et alors évidemment, cela devient un phénomène social quand finalement ce narcissisme n'est pas seulement le fait de quelques individus, mais quelque chose qui finalement se multiplie et même entretenu par la société, par l'économie. Et ce qui est intéressant chez Lash, c'est que cette analyse, bon, qui paraît très psychologique, rejoint une analyse qui est beaucoup plus sociologique. Après tout, il est sociologue. Et il nous fait comprendre que, par exemple, la société de consommation encourage énormément le narcissisme, puisque d'un côté, l'excès de consommation enlève la durabilité des choses du monde extérieur, puisque les objets sont remplaçables, périmables, périssables, etc. Et donc, on est dans un monde qui lui-même est programmé pour l'obsolescence, et ça inclut même les êtres humains, puisque une fois qu'on est retiré du marché du travail, on ne sert plus à rien. Donc, le monde qui pouvait donner une certaine sentiment de sécurité aux individus, lui-même devient labile, effaçable et toujours en mouvement.
Oui.
Et par ailleurs, la culture de la consommation cultive le narcissisme puisque c'est un monde de l'objet facilement accessible qui va toujours au-devant de nos moindres, de nos désirs et qui entretient l'idée qu'effectivement, qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de béance entre nos volontés, nos désirs les plus profonds et le monde. Il suffit que de peser sur quelques boutons et voilà, on est servi, pourvu qu'on ait de l'argent, bien sûr, ou qu'on s'en
aide. Professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, vous nous parlez de subjectivisme radical, ceci à partir de cette réflexion du sociologue et historien Christopher Lash, décédé en 1994. Vous parlez donc de la société de consommation où chaque individu narcissisé, si vous voulez, ou dans une tendance narcissique, peut satisfaire le moindre de ses désirs. Il y a aussi une autre tendance, depuis les années 50-60 et même plus tard, l'empiètement du juridique. Je veux dire, on est une société de droit. Je veux dire, l'individu qui veut consommer c'est pas qu'il a des appétits, c'est qu'il a des droits.
Oui, c'est-à-dire que en soi, la culture des droits ou la notion des droits de l'homme n'est pas narcissique en soi, mais elle peut être utilisée de manière narcissique. Et elle peut servir justement à le renforcer. Dans son ouvrage, Christopher Large parle assez peu du droit. Il aurait pu le faire.
Pardonne-moi, de quel ouvrage parlez-vous? Il y en a deux dont on parle, le culte du narcissisme ou le moi siégé.
Il en parle assez peu. Il y a quelques allusions. En fait, ce qui l'intéresse plus dans son ouvrage, mais ce qu'on peut dire sur le droit n'infirme pas ce qu'il constate ailleurs. Mais, et par exemple, il s'intéresse beaucoup à la culture, au monde des arts et même à la musique. Et il constate que le narcissisme y est présent. Mais il y a un des éléments qui est très important dans son ouvrage, qui nous fait mieux comprendre ce qu'il entend par narcissisme, c'est la culture de la survie. C'est-à-dire que, d'où le titre, le moi assiégé. C'est-à-dire que le moi narcissique est un moi fragile, c'est un moi qui vit dans l'insécurité permanente. Il éprouve de la difficulté à distinguer ce qui est à soi et ce qui est autre. Il a peu confiance dans le monde parce que le monde bouge sans cesse. Et ça c'est très original dans sa démonstration, ce qui vient de nourrir cette insécurité, c'est cette notion de la survie qui s'est propagée aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Et là-dessus, il est assez provocateur. Il estime que, finalement, les expériences du mal radical, la Shoah, les deux grandes guerres mondiales, même le totalitarisme, ont quand même profondément marqué les esprits, même aux États-Unis, même s'ils n'ont pas été directement touchés par ces événements affreux. Mm-hmm. Et sa thèse, c'est que l'expérience du mal radical a propagé aux États-Unis l'idée que finalement tous les Américains sont menacés justement de choses terribles et que finalement pour vivre il faut survivre.
Pardonnez-moi, Marc, je fais une parenthèse, mais alors, les attaques terroristes contre les tours jumelles en 2001, en septembre 2001, ont dû être le parachèvement, enfin l'apogée, la confirmation ultime que ce sentiment d'être assiégé était vrai.
Oui, effectivement, je n'en parle pas dans son ouvrage, ce qui s'est passé en 2001 a pu tout simplement ajouter une pièce au dossier supplémentaire. Et donc, a pu tout à fait nourrir. Et on le voit aussi, par exemple, les événements plus récents, le COVID, le succès des théories du complot. Le complotisme, c'est une autre des manifestations de ce que Lash appelle le survivalisme. C'est-à-dire que nous sommes tous des moi en sursis, dans un monde profondément hostile, dans lequel on ne peut pas faire confiance, et encore moins aux gouvernements qui sont à la solde de toutes sortes d'intérêts occultes. Et donc, la seule attitude, finalement, pour pouvoir vivre, est celle, justement, de vivre comme un assiégé, de se replier sur soi, de se désinvestir émotionnellement du monde. J'insiste beaucoup là-dessus. Il constate que c'est une chose qu'on observe dans les relations sociales et également même dans les mouvements artistiques. Donc, on va se désengager émotionnellement du monde ou de ce que l'on crée. Pour finalement assurer ses arrières et se replier sur un moi qui ne veut pas trop s'encombrer d'engagement. Et
pardonnez-moi,
c'est un moi qui vit dans le présent.
Voilà, justement, c'était ça ma question. Si l'autre, le monde disparaît, le passé aussi disparaît.
Tout à fait. Et là-dessus, il y a comme un rétrécissement temporel, ce que constate Lash, un rétrécissement temporel dans la conscience de soi qui n'est plus ancré dans le passé, encore moins dans les traditions, qu'elles soient religieuses ou communautaires. Et ça aussi entraîne une incapacité de se projeter dans l'avenir. Et aussi, une des difficultés justement de ces mois assiégés, c'est qu'ils ont, ils n'éprouvent pas, ou plutôt ils ne voient pas comment ils peuvent s'engager dans une action collective, d'où le déclin du politique, d'où un certain scepticisme à l'égard de l'action politique qui est entretenu par toutes sortes de mouvements et que les médias sociaux alimentent puisqu'ils donnent l'impression que l'individu souverain peut finalement lui-même se débrouiller.
Marc Chevrier, il me semble que le mot subjectivisme radical, l'expression ou l'individu souverain que vous venez d'employer, va très bien avec le mot masse. Un peuple est composé de toutes sortes de corps intermédiaires, c'est un bien organique, c'est une réalité qui vit, qui grossit, qui diminue, etc. Une masse, c'est une masse de numéros qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. Une masse, c'est une somme de subjectivités radicales qui, si vous voulez, sont complètement atomisées. Est-ce que Christopher Lash en parle ou pas de cette façon?
Oui, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup de la culture de masse au début de son ouvrage. Voilà. Et justement, au début de l'entrevue, j'ai un peu résumé ce qu'il observait sur les effets de la culture de masse. Et c'est une culture qui uniformise, homogénise les représentations de soi et qui infantilise aussi un peu notre rapport au réel et à la société. Et par ailleurs, la culture de masse renvoie à finalement des intuitions qu'avait déjà eues Tocqueville, c'est-à-dire que au fond, l'individu démocratique, et c'est ça le paradoxe de l'individu démocratique, c'est que il se voit immédiatement comme l'égal de tout autre. Mm-hmm. On peut considérer comme une victoire si on le compare par exemple aux sociétés aristocratiques où il y avait une espèce de différence infranchissable entre le simple paysan et le seigneur ou l'aristocrate. Donc chez l'individu démocratique, il y a une identification qui se fait rapidement entre soi et l'autre, ce qui est au fondement finalement du régime démocratique, justement, comme l'autre et comme moi, cette égalité peut mener à l'indifférenciation ou alors au désir d'égalité qui efface toute forme de différenciation.
Marc Chevrier, il nous reste 5 minutes. Dans le portrait que vous nous dressez, donc, de cet individualisme exacerbé par l'égalitarisme, et quelle est la place des institutions? Quelle est la place du droit? Quelle est la place de l'idée de médiation? Qui dit médiation dit, entre vous et moi, il y a un tiers membre qui lui régule le jeu.
Oui. Et justement, vous touchez là une question fondamentale, c'est la question des médiations. Dans notre première entrevue, je disais que, par exemple, dans le monde politique, on observait qu'il y avait cette aspiration contemporaine qu'on observe chez les nouvelles générations et même chez les plus anciennes pour une espèce de politique où il n'y aurait pas de parti politique, par exemple. Donc, on pourrait faire finalement s'engager dans l'action politique directement. On pourrait participer aux œuvres démocratiques sans s'encombrer de ces médiateurs, tout comme on le voit sur les médias sociaux, on voit une espèce de volonté de se faire justice soi-même sans attendre la justice de l'État qui est trop lente et qui ne finalement donne pas une réparation immédiate aux souffrances des victimes. Mm-hmm. Et effectivement, la médiation est de moins en moins bien comprise. Elle est souvent vue comme l'apparition d'un tiers externe, oppresseur, qui échappe à ma volonté.
Un peu comme le papa dans la psychanalyse, un peu comme le père, non?
Oh oui, comme le père. Par ailleurs, finalement, le tiers, il peut être incarné par la figure du père, mais il peut être incarné par la mère, il peut être incarné par d'autres membres de la famille, et ainsi de suite. Et ça me renvoie à un autre ouvrage que j'aime bien, d'Alasdair MacIntyre, qui est un philosophe politique qui vit aux États-Unis, et qui rappelle, dans un de ses derniers ouvrages, que nous sommes des êtres essentiellement dépendants. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe de l'être humain qui demeure un animal, comme MacIntyre le reconnaît et comme Aristote le pensait, c'est-à-dire un animal qui se fait, qui acquiert son autonomie, mais à travers des liens de réciprocité, de dépendance avec autrui. C'est comme ça qu'on devient humain. Et effectivement, la philosophie contemporaine a souvent tendance à mettre en avant finalement un Robinson qui se construit lui-même, qui est l'auteur de toutes ses valeurs et de ses idéaux, alors que pour accéder à cette fameuse autonomie, il a fallu passer par toutes sortes de médiations.
Mais pardonnez-moi, Marc Chevrier, mais à la limite, religieusement, l'ermite, c'est votre Robinson, mais lui, il est dépendant de Dieu. Il y a quand même un tiers quelque part, même quand on est ermite.
Oui, et l'ermite devient ermite après être passé par un minimum d'éducation religieuse. Donc, il y a quand même une médiation à un moment donné dans sa vie qu'il va intérioriser et ce qui va lui permettre ensuite de se consacrer à une vie d'ermitage.
Il nous reste une minute, Marc Chevrier.
La médiation peut être sous la forme d'une empreinte qu'on porte en soi. Oui, effectivement, penser la médiation, penser nos dépendances qui nous façonnent et qui, dans une certaine mesure, sont saines. Puisqu'en fait, un enfant laissé à lui-même ne devient pas un être humain développé. Il a besoin des autres, de la famille, il a besoin d'une société pour se développer. Et cette activité par laquelle on se développe, à travers notamment le jugement d'autrui et le sien que l'on construit par ces mêmes jugements, bien, c'est une activité pratique. Et qui s'acquiert par le langage, par l'éducation, et donc par toute une série de médiations qui commencent dans la famille.
Marc Chevrier, professeur au département de sciences politiques à l'UQAM. Vous nous parlez de subjectivisme radical. J'ai le sentiment qu'on pourrait faire encore une ou deux émissions. On va s'arrêter pour l'instant ici. Merci beaucoup pour ces propos. On vous retrouve assurément une autre fois.
J'espère bien.
Voilà, c'est la fin de l'émission. À la mise en onde de Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous remercie d'avoir été des nôtres et vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.